Montesquieu, philosophe, magistrat, voyageur, mais aussi homme de cœur. Monique Brue-Moncassin nous propose aujourd'hui de découvrir une facette plus intime de sa vie, Montesquieu, amoureux. Bonjour Monique.
Bonjour.
Alors ?
Alors, la grande période flamboyante de sa vie se déroule entre 1724 et 1731. Adulé dans les salons à Paris, il va fréquenter aussi la cour de Chantilly. Le duc de Bourbon et sa maîtresse, la marquise de Prie, épouse du parrain de Louis XIV, mènent un train de vie fastueux. Fêtes, soupers, chasses, concerts, distraient la foule des courtisans et belles femmes qu'ils reçoivent, sans oublier le gratin des brasseurs de l'époque. Montesquieu y rencontrera Voltaire et une jeune beauté qui deviendra marquise de Pompadour et prendra sa défense auprès du roi plus tard, lorsqu'il risquera gros avec son esprit des lois. Inévitablement, dans un tel milieu de libertinage et de tentation, lui qui n'a jamais vécu que dans la contrainte familiale et provinciale, entouré d'admirateurs et d'admiratrices, il va tomber amoureux. Voici donc la coquine, libre et spirituelle, marquise de Graves, au nom prédestiné pour notre vigneron.
Eh oui.
Il écrit « Remarquez bien que la plupart des choses qui nous font plaisir sont déraisonnables. Avant ou en même temps, il soupire d'amour, mais en vain, pour la sœur du duc, la princesse de Clermont. Il lui écrit, ce qui donne, on admire votre Altesse quand on la voit de loin, on l'aime quand on la voit de près. Il est ébloui, mais mademoiselle de Clermont aime ailleurs, et s'il lui offre une pièce de théâtre gréco-romantico-libertine, ils n'iront pas plus loin et se roulent à ses pieds, c'est tout. » Donc il succombe à la croqueuse d'homme, la très délurée Marie-Anne de Graves, proche parente de la marquise de Prie, qui règne à Chantilly. Il l'avait déjà d'ailleurs rencontrée l'année d'avant à Paris. Les tendres billets doux nous sont parvenus, tantôt à la princesse, tantôt à la marquise. Et avec elle, celui qui écrit qu'il se couche à 4 heures du matin fait plus que flirter. Stupeur ! En mars 25, elle accouche d'une petite fille, et il semble bien que le père soit le mari. Il en est très dépité, il se brouille un peu, mais ils resteront toujours bons amis.
Très bien.
Personne, celle-là, n'a jamais su son nom. Celle à qui il écrit « Je ne sais si je vous aurai assez tôt dit hier combien je vous aime, combien je me donne et combien je me sens à vous. » Les rendez-vous amoureux s'enchaînent dès qu'ils ont l'opportunité de se voir, notamment à Versailles. Mais la comtesse devient moins assidue, le fait languir ou ne vient pas, malgré tous les billets qu'il lui adresse. Mois de mai 26, par étourderie ou plus malicieusement, c'est la fameuse marquise de Graves qui gaffe devant lui, jasant sur le nouvel amant de la belle comtesse. Vexé, jaloux, blessé dans son amour-propre, il écrit une longue lettre à l'infidèle du style « J'ai appris hier au soir toute votre vie passée, c'est-à-dire que j'ai reçu 1000 coups de poignard. J'en rougis pour vous, mais j'en rougis bien plus pour moi. » etc. Il termine « Je suis dans un désordre indescriptible, je pars pour la campagne. » Effectivement, séance tenante, sous un faux prétexte, sans prendre congé avec ses plus proches amis, qui s'en vexeront un petit peu, il fuit se réfugier en Guyenne. Marie-Anne de Graves, fine mouche, lui écrira en juillet pour lui dire qu'elle a bien compris, elle, la raison de ce départ précipité. Il a eu le temps de ruminer et de se calmer pendant le long trajet vers la Brède. Mmh. Une qui a dû être bien étonnée et peut-être ravie, c'est Madame de Montesquieu. L'époux Volage et sa femme, patiente et digne, fêtent les retrouvailles. La petite Denise naîtra, 9 mois plus tard, en février 1727.
D'accord.
Peu préoccupé par cette future naissance, il quittera Bordeaux le 28 décembre et ne reviendra à la Brède que 4 ans plus tard, devenant alors un papa aimable et très attentif à cette troisième enfant. Remercions la comtesse Volage, car grâce à elle, c'est par Denise qu'il y a encore des descendants actuels.
D'accord.
La liste de ses bonnes fortunes et de ses passades galantes se prolongera bientôt en Italie, subjuguée d'abord par l'éblouissante, cultivée, richissime princesse Borromée qui possède les îles du même nom. Il va filer pourtant le parfait amour avec une autre princesse, Maria, épouse de 32 ans du jaloux prince Trivulse et qui n'est autre que la belle-sœur de la précédente. Je peux vous dire que nous avons copie des trois plus belles lettres d'amour que nous puissions rêver, madame, de recevoir.
D'accord.
Petit extrait. Il me semble que ma passion est différente de toutes celles que j'ai eues dans ma vie. Oui, on peut le croire, c'est pas sûr. Je vous ai vu et soudain, j'ai senti du plaisir à vous aimer. Ma chère petite, je crois que si je te tenais, je mourrais dans tes bras. Et chaque fois que je lis cette phrase, je me vois mon Montesquieu en train de dire et de penser ça. Oui. Vraiment, ça me réjouit de le voir sous cet aspect-là. Mmh, mmh. Un dernier bal masqué, il quitte son cher cœur le 11 novembre 28, après un dernier rendez-vous de pleurs et de larmes. Désespéré, tout le reste du grand voyage jusqu'en mai 31, il sera très sage.
Très bien. Eh bien, merci beaucoup Monique de nous avoir révélé ce Montesquieu amoureux, surprenant. Et demain, justement, nous parlerons de ce grand voyage. À demain.
Au revoir.